Je ne sais pas si les joueurs de l'Impact sont tombés dans le piège, façon de parler, là. En tout cas, moi, je suis tombé dans le piège comme téléspectateur samedi de penser déjà à une équipe qui allait chercher deux victoires à ses deux premiers matchs sur la route. Je ne sais pas si Vincent a basculé un peu aussi dans cette tentation-là. Je l'entendais dire qu'il y avait deux points à la portée de l'Impact finalement, mais on se retrouve gros gens comme devant à la fin de cette soirée-là contre Houston et pas un point au rendez-vous pour l'Impact de Montréal. Vincent Destouches est avec nous. C'est reparti pour l'Impact de Montréal. Bonsoir Vincent.
Salut Mario.
Vincent, en effet, ça sentait la possible victoire. Là, tu sais, aller jusqu'à la 80e minute et quelques poussières, puis à un moment donné, oups, on dirait que ça, le jeu basculé, hein?
Écoute, en avant-match, je disais effectivement qu'il y avait une opportunité pour l'Impact et qu'ils allaient là-bas avec un état d'esprit conquérant. Et c'est ça que ça prend. À un moment donné, si on veut se sortir des tréfonds du bas de classement ou si on veut faire les séries éliminatoires, faut avoir de l'ambition, faut jouer pour gagner, même sur la route. Mais je disais également qu'attention, parce qu'on a vécu toute la semaine dans l'engouement, l'enthousiasme autour de l'Impact, voire un brin de confiance et d'arrogance qui me déplaît pas, mais qui peut être un danger également. Parce que pour l'instant, l'Impact n'a rien prouvé. Et il faut travailler fort. Il n'y a rien qui est acquis. L'Impact ne peut pas commencer à agir comme une équipe qui va gagner, c'est sûr, à Houston. Et tu sais, Patrice Bernier me le rappelait, que à Houston, ça a toujours été très compliqué, que dans les 15 premières minutes, on voyait souvent les joueurs de Montréal souffrir, voire encaisser des buts. Ça a souvent été l'histoire de l'Impact là-bas, parce qu'il y a quand même le facteur Texas qui rentre en compte. On a beau être le 9 mars, samedi dernier, il faisait 27 degrés, 63% d'humidité. C'est pas un contexte auquel les joueurs de l'Impact étaient habitués. Et je pense que ça a un petit peu joué. C'est pas une excuse, mais c'est l'un des facteurs qui explique cette prestation très terne, assez médiocre de l'Impact de Montréal.
Décevante prestation en fin de match. Es-tu déçu de l'ensemble de la prestation? Trouves-tu que ça a manqué justement d'attitude de conquérant de la majeure partie du match?
Oui, franchement, oui. Pour moi, ça se joue pas nécessairement sur la fin de match ou les cinq dernières minutes. C'est vrai que
l'ensemble.
Sur le deuxième but, je trouve que les défenseurs n'ont pas été super. Azira, Cabrera auraient pu mieux faire pour empêcher que le ballon se retrouve devant le but. Et Zakaria Diallo laisse partir l'attaquant de Houston, Mauro Manotas, qui vient marquer devant un but vide. Alors je pense que presque l'ensemble de la brigade défensive aurait pu mieux faire. Mais écoute, il y a eu deux erreurs défensives dans le match qui ont abouti à des buts, mais ça aurait vraiment, vraiment pu être évité, ne serait-ce que si l'Impact avait fait quelque chose avec ce ballon. Moi, je trouve que pendant presque tout le match, on a vu un Impact assez amorphe. Il n'y avait pas beaucoup de mouvements, ça circulait pas très rapidement. Nacho n'était pas dans un très bon jour. Mm-hmm. Alors, ils n'ont pas produit beaucoup d'occasions de but. Et je pense qu'effectivement, c'était un match en entier très moyen.
Et d'ailleurs, j'ai pris tout le match et tes propos d'avant-match par rapport à la crainte que tu avais d'un débordement de confiance. Et là, je ne sais pas si ce qui se produit autour de l'Impact ressemble à ce qui se produit autour du Canadien où chaque succès, comment dirais-je, est décuplé ou en tout cas est amplifié d'une certaine façon.
C'est un peu ça.
Et ça se passe ainsi aussi, au contraire, quand c'est le cas de défaite. Mais j'étais surpris. Bon, tu sais que j'étais pas à l'antenne la semaine dernière, mais je regardais ça quand même avec grand intérêt. Et là, Diallo était le meilleur défenseur central de la Ligue, puis là, l'équipe, puis là, c'était... Écoute, je trouvais ça un peu amusant, puis je trouvais ça le fun, parce que c'est sûr que ça donne envie de regarder une équipe qui a du succès, mais je trouvais qu'on s'emballait très, très rapidement, Vincent.
Ben écoute, je vais te répéter exactement ce que j'ai dit dans l'avant-match, parce qu'effectivement, on a parlé de ça. Cette déclaration de Bakary Sagna sur son coéquipier, Zakaria Diallo, disant « c'est probablement le meilleur défenseur de la MLS ». J'ai dit qu'on pouvait résumer le début de saison de l'Impact à travers cette citation. Parce que il y a de l'engouement, il y a de l'enthousiasme, c'est le fun quelque part, on a envie justement de participer à ça, on sent tout le monde qui est libéré, même les joueurs, et puis quoi ? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de se jeter des fleurs ? Est-ce qu'on n'a pas le droit de se considérer être les meilleurs aussi de la Ligue ? Combien d'années Piatti a joué sans qu'on dise que c'était l'un des meilleurs de la Ligue alors qu'il l'est ? J'ai pas de problème avec ça. Ce petit brin d'arrogance dont je te parlais tantôt, ça prend ça aussi. Reste que Il y a un danger à ça. Le revers de la médaille, c'est que t'es jamais aussi bon que ton dernier match. Si Diallo fait une boulette ou si l'Impact perd ce match, tout ce qu'on a dit durant la semaine est remis en question et c'est exactement ce qui est arrivé. Diallo dort un peu au gaz sur le deuxième but. L'Impact perd ce match en étant très moyen. Et là, voilà, il y a des partisans, certains en tout cas, qui remettent en question l'impact, d'autres qui prônent la patience. Je pense que tu sais, c'est Mario, il n'y a pas de secret dans le sport, dans les grandes victoires, il faut savoir tempérer, et dans les grosses défaites ou les petites défaites comme celle-là, il faut savoir aussi relativiser. Le visage de l'impact reste à découvrir. Il ne faut pas oublier que c'est un début de saison sur la route, que c'est compliqué, que pour l'instant, une victoire, une défaite, c'est somme toute très honorable, assez satisfaisant, et qu'il faudra attendre quand même plusieurs semaines et aussi plusieurs matchs à domicile avant de vraiment voir ce que cette équipe elle a dans le ventre. Alors effectivement, ne boudons pas notre plaisir, parce que ça fait longtemps que l'impact est un petit peu dans la cave, mais il faut faire attention à ne pas trop s'emballer.
Mais oui, je te rejoins complètement dans la façon dont tu décortiques toutes nos émotions par rapport aux ambitions de l'équipe et ce qu'ils sont capables de réaliser. Dans la réalité des choses, là, l'impact avec tous ces matchs-là sur la route en début de calendrier, comment est-ce qu'ils gèrent ça? Est-ce qu'ils reviennent à Montréal à chaque semaine, Vincent?
Oui. Ils reviennent à Montréal, ils sont revenus seulement 3 jours. Normalement, les règlements de la Ligue permettent pas que tu passes 7 jours, ou je crois que c'est plus de 3 jours sur place avant un match. Alors là, en l'occurrence, ils reviennent à chaque fois, entre chaque périple. C'est pas nécessairement facile. En même temps, ça fait un peu du bien aussi dans les têtes, hein, parce que quand tu passes plus de 2 mois, parce que c'est quasiment ça, sur la route, loin de ta famille, loin de tes enfants, loin de ta conjointe, ça provoque un manque à un moment donné qui fait qu'on peut se désintéresser aussi un petit peu du sport ou de ce qu'on est en train de faire. Un athlète, ça doit être stimulé de bien des manières. Alors qu'ils reviennent 3-4 jours pour prendre du plaisir et qu'ils repartent avec la banane sur le visage pour un autre séjour, c'est parfois pas plus mal. Mais c'est vrai que, je le répète, voyager en MLS, c'est très difficile, que quand tu fais 4-5 heures de vol, oui, t'as les jambes lourdes quand t'arrives, ça se ressent à l'entraînement, c'est pour ça que c'est mieux d'arriver 48 heures à l'avance que 24 heures, sinon c'est pendant le match qu'on aura les jambes lourdes, alors c'est jamais évident, et c'est pour ça que pour l'instant, je le répète, une victoire, une défaite, c'est pas si mal, mais que à Orlando, samedi prochain, ça prend des points.
Rémi Garde, je reviens au match de samedi, a utilisé tous les changements à sa portée. Ça n'a pas eu l'effet escompté là, que ces nouveaux venus dans le match, dont entre autres Anthony Jackson-Hamel, qui n'avait pas vu d'action depuis belle lurette. Mais ça indique quand même un changement d'approche par rapport à la façon dont Rémi Garde veut utiliser son effectif. Lui qui en demandait plus aux joueurs qui étaient sur le terrain pendant le match, il n'était pas satisfait de ce qu'il obtenait, mais je pense que ça donne une indication de ce qu'il a appris de la première année de sa première année en MLS.
Oh ben, tu sais quoi, je te rejoins pas à 100%. Moi, j'ai pas l'impression qu'il a changé d'approche. J'ai l'impression qu'il apprécie davantage ce qu'il voit. C'est-à-dire que quand
je te rejoins là-dessus. Ouais, je te rejoins.
Quand il fait rentrer, par exemple, Anthony Jackson-Hamel, moi, je sais de source sûre qu'il le fait pas rentrer par dépit ou juste parce que Urruti est un peu fatigué. Il le fait aussi rentrer parce qu'il a aimé vraiment ce qu'il a vu de Jackson depuis le début du camp et qu'il sait que Jackson peut faire déboucher des situations dans les dernières minutes et aussi qu'il a envie de le récompenser pour les garder impliqués. Parce que c'est ça aussi un effectif. Si tu fais seulement jouer 11 ou 12 joueurs, les autres, au bout d'un moment, ils vont commencer à comprendre comment ça se passe et ils peuvent sortir d'une vie de groupe. Alors, je trouve ça intéressant. Maintenant, Rémi Garde voulait un groupe plus profond. Visiblement, il l'a. Il est aussi un peu jeune. Cette profondeur est un peu jeune. Ça prend parfois un peu plus d'expérience et de vis, mais c'est intéressant pour la suite.
Vincent, un gros merci. On se reparle plus tard cette semaine en prévision du match numéro 3 de cette saison. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Excellente soirée. Je vous rappelle que Columbus tire derrière 1-0 contre les Islanders après une période. On vous revient dans un instant. Les nouvelles de Félix Auger-Aliassime qui joue en ce moment à Indian Wells. Et il mène d'ailleurs.